Le Poinçon, un podcast de la BBR.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Poinçon. Aujourd'hui, nous allons découvrir les coulisses d'un des secteurs de la BBR, Bibliothèque Braille-Roman des livres parlés, le secteur de la transcription. Transcription, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu mystérieux? Nous allons en parler aujourd'hui avec deux transcriptrices qui font partie d'une équipe de 5 personnes. 5 transcriptrices, c'est une équipe exclusivement féminine. Je vous laisse vous présenter.
Alors bonjour, je suis Pascale Hollenweg. Je travaille à la bibliothèque depuis maintenant pratiquement 30 ans. Donc ça va faire 30 ans en janvier prochain. Et voilà, et donc j'ai un peu vu passer toutes sortes de phases et d'étapes dans les procédés de transcription du braille, voilà.
Séverine, je travaille à la bibliothèque depuis 22 ans, je suis une des plus vieilles collègues de Pascal.
Et en ce qui me concerne, c'est Corinne, je suis responsable de ce même secteur de la transcription, travaillant à la BBR depuis 2002, soit presque 23 ans. Alors pour commencer, qui veut bien nous dire ce qu'est la transcription? Nous donner une courte définition.
Alors la définition Pascal. La plus courte que j'aurais, ce serait qu'on adapte des textes, des ouvrages en braille et à l'aide d'un logiciel. Voilà.
Bien. Alors puisqu'on parle de braille, ce serait bien d'expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce qu'est le braille exactement. Séverine.
Volontiers. C'est un alphabet constitué de 6 points en relief, destiné à être lu avec les doigts. Il représente tous les signes de l'alphabet, enfin toutes les lettres accentuées, les ponctuations, les chiffres et tout autre symbole. Il a été élaboré et finalisé en 1824 par Louis Braille, un jeune ado de 15 ans, aveugle à 3 ans, français. Il s'était inspiré d'un système d'écriture qui devait être système de communication dans le noir pour les soldats. Il l'a amélioré en le réduisant de 24 points à 6 points pour que ce soit plus lisible, rapidement lisible avec la pulpe de l'index. Et il l'a aussi rendu accessible à l'orthographe en passant parce que ce système d'écriture était un système phonétique. Donc lui, ça lui tenait à cœur de reproduire l'orthographe pour les aveugles. Ensuite, en 1949, l'UNESCO a adapté le braille à toutes les langues. Donc on écrive de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Toutes les langues ont leur version, leur adaptation en braille. Ensuite, il y a aussi un braille musical et un braille informatique sur 8 points. Donc on peut dire vraiment que le braille, c'est un système d'écriture qui s'adapte avec le temps et qui est tout à fait modulable et efficace.
Oui, est-ce qu'on peut préciser aussi, parce que beaucoup de gens ont tendance à dire que le braille est une langue, et en fait non, le braille est une écriture.
Oui, c'est un alphabet.
Dont l'alphabet existe dans toutes les langues.
Oui, avec 6 points, on peut vraiment reproduire absolument tout.
Comment fait-on concrètement pour transcrire un document en braille? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes pour qu'un document qui est imprimé en police noire, comme on dit au départ, aboutisse à un document en braille? Laquelle de vous deux veut bien m'expliquer cela?
Je peux commencer parce que j'ai connu justement un peu la période où c'était encore tout ce qui existait, je dirais, avant les années 90. C'est-à-dire que dans le fond, on faisait essentiellement le braille au poinçon. On poinçonnait les points, on prenait le livre, on l'avait à côté, et puis des personnes, très souvent bénévoles, je crois, poinçonnaient à l'envers pour que ça donne ensuite des points en relief. Donc ce procédé, qui paraît vraiment très artisanal, l'était, c'était très long. Ça veut dire qu'un livre, par exemple, je ne sais pas, moi, un roman moyen de Balzac, qui aurait actuellement, je ne sais pas, peut-être 500 pages, parce qu'il fait des gros livres quand même, Balzac, on pouvait peut-être mettre 2 ans pour le faire, voire plus, ça dépendait de la vitesse des personnes qui poinçonnaient. Alors moi, quand je suis arrivée, donc début des années 90, 95, le braille informatique, qui est le moyen qui actuellement est utilisé, essentiellement, ça commençait. Il y avait, donc, en gros, on utilisait un scanner pour passer page à page des livres dans ce scanner. Ensuite, on avait le document qui était donc sur un ordinateur. Il fallait le nettoyer, beaucoup le nettoyer, parce que il sortait pas toujours très très bien, comme les scanners il y a 30 ans. Et puis ensuite, ce qu'on a toujours comme méthode maintenant, on nettoie le texte, on l'adapte en fonction du futur texte braille, c'est-à-dire que grâce au logiciel qui a existé ensuite et qui commençait à exister quand je suis arrivée, ce logiciel permettait justement qu'une fois le texte scanné, on le prépare et puis ensuite on le passe au logiciel et le texte il apparaît sur notre écran, dans le fond, comme si on avait devant nous une page braille qui va être imprimée en braille. Voilà.
Et on peut peut-être juste préciser, pour bien comprendre, que quand on scanne un livre, le fichier qu'on enregistre, qu'on obtient, le format, c'est un format Word.
Moi, j'ajouterais juste que, l'étape du scannage peut être évitée si on a un fichier source numérique.
Bien sûr.
Donc, on a un gain de temps de mm-hmm. quelques semaines, pratiquement, parce qu'il faut, après le scannage, relire le livre, etc. Donc, la plupart, maintenant, de nos sources sont numériques.
Oui, oui. Ouais. Et ça, c'est mm-hmm. vraiment le gain au long mm-hmm. des voilà. années. C'est vrai que depuis quelques années, le scannage est devenu presque anecdotique. Et c'est un gros gain de temps dans la production des ouvrages qui nous permettent maintenant de produire des ouvrages très rapidement après leur publication dans le commerce. En parlant d'ouvrages et de documents qu'on transcrit, justement, quels sont les types de documents qu'on transcrit en braille à la BBR ?
On a aussi, en plus, donc des ouvrages pour la collection. On a eu, je dirais, pendant longtemps, des ouvrages que des étudiants nous demandaient. Il y avait même des parties d'articles de droit, des textes, des parties de cours, des choses comme ça. Beaucoup plus récemment, finalement, on travaille en collaboration avec le DIP, le département de l'instruction publique, pour, finalement, on a repris les travaux et les cours à faire pour les enfants. Les enfants déficients visuels. Et donc, c'est très intéressant. Ça prend une bonne partie quand même de notre temps. Et on doit adapter toutes sortes de cours pour tous les âges. Donc, dès les plus petits, pour les plus petits qui apprennent à la fois le braille et qui apprennent à lire. Donc, ces enfants-là, on va leur préparer des textes, par exemple, qui seront ensuite imprimés en braille. Puis, peu à peu, comme maintenant c'est le cas pour beaucoup d'étudiants et de jeunes, c'est qu'ils vont travailler avec l'ordinateur. Alors, les petits, ils apprennent après sur leur ordi. Résultat, maintenant, on prépare pour les écoliers très vite des textes qui sont uniquement en format Word et qu'on n'a pas besoin d'imprimer. Mmh. Voilà. Et puis, il y a aussi des demandes particulières. Il y a toutes sortes de demandes. De temps en temps, c'est des organisations internationales qui ont des congrès et qui ont besoin qu'on prépare des textes. Exactement. Ponctuellement, des musées qui ont besoin de commentaires ou de pour faire des expositions un peu accessibles à tout le monde. Puis, y avoir n'importe qui, voilà.
Et ce qu'on fait aussi, je ne crois pas que tu l'as mentionné, c'est des cartes pour les restaurants.
Ah oui, c'est vrai.
Des restaurants qui seraient intéressés. Là, on l'a déjà eu fait assez régulièrement. Et finalement, pour toutes sortes d'entreprises qui voudraient...
communiquer avec notre public.
Et que ce soit en braille. Ou... Et justement, ça m'amène à l'autre question. Tu l'as un petit peu abordée, Pascal, juste avant... parce que moi, je te posais la question par rapport au braille, mais tu as un petit peu devancé ma question suivante en mentionnant pour les élèves, notamment du scolaire, qu'on fait aussi des adaptations en format Word, par exemple. Et donc, c'est ça aussi, c'est qu'au service de la transcription, enfin dans le secteur de la transcription, on ne produit pas que du braille. Et est-ce que Séverine, tu voudrais nous en parler un petit peu plus ?
Oui, alors le braille papier, c'est la partie émergée de l'iceberg, je dirais. On tend à vraiment, nos adaptations tendent à être plutôt numériques. On peut adapter du fichier Word, du PDF, mais aussi du BRF. Alors bien, la plupart des gens ne connaissent pas le BRF. Alors je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est l'équivalent du braille papier, mais en numérique. C'est-à-dire c'est un fichier qu'on peut lire avec une voix de synthèse ou lire avec une plage braille. Il faut savoir que chaque titre que nous produisons pour la collection, donc titre papier, est optimisé par la production d'un braille numérique, donc un BRF. Et l'avantage de ce fichier-là, c'est qu'on peut lire l'intégralité d'un titre. Donc un titre, ça peut être un titre de 300, 500 pages sur un appareil de lecture. Donc on peut être au café, on peut être dans le train, dans une salle d'attente et lire un livre très volumineux juste sur la ligne braille ou l'écouter avec une voix de synthèse. Le BRF a cet avantage par rapport au braille. Enfin, il est comme le braille, c'est-à-dire qu'il transmet à travers la ligne braille l'orthographe et on peut aussi circuler dedans avec sa structuration. On adapte aussi des fichiers Word, des fichiers PDF avec une structuration, un balisage. Donc on peut aussi lire ces fichiers numériques avec une plage braille et la voix de synthèse, et où il y a des personnes qui utilisent les deux en même temps. Cet avantage-là nous a permis d'élargir un peu le panel de notre public. Vu qu'on peut lire avec l'audio nos documents, on peut toucher aussi un public plus large, comme les personnes à besoins spécifiques, comme les personnes dyslexiques, dyspraxiques, comme d'autres personnes qui ont des problèmes de physique, comme tétraplégique ou d'autres problèmes d'apprentissage. Donc on voit vraiment que le braille n'est pas cantonné à du livre papier. Il est vraiment l'allié du numérique, puisqu'on peut accéder au livre numérique, on peut accéder à son orthographe à travers une ligne braille.
Séverine, tu as évoqué juste avant le mot, les mots plage braille.
Rien à voir avec une plage.
Rien à voir avec une plage. C'est un peu moins exotique, mais plus utile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
C'est un dispositif de lecture. C'est comme une réglette qu'on va plaquer. Alors là, je parle d'un poste de travail devant un ordinateur. On va plaquer cette plage braille devant le clavier. Et sur cette plage braille, il y a des picots qui vont émerger en fonction de où se place le curseur dans le texte. Donc on aura vraiment l'équivalent de la ligne sur laquelle est le curseur en braille qui va émerger sur la plage braille.
Pour former les caractères braille.
Pour former les caractères braille. Voilà.
Oui, et en fait, la personne qui va lire le document, elle promène sa main, son index, en fait, sur cette plage ou cette ligne braille, et c'est comme ça qu'elle lit, comme si elle lisait sur une feuille de papier, en fait. Et puis maintenant, si on parlait un petit peu de vous, les transcriptrices, déjà, comment avez-vous atterri à la BBR, l'une et l'autre? Peut-être on va commencer par toi, Pascal, puisque tu es la plus ancienne de l'équipe.
Alors moi, je dirais que c'est à la fois par hasard et pas par hasard. C'est-à-dire que j'étais une période, à ce moment-là, de transition, de chômage. J'avais arrêté mes études, j'avais fait du secrétariat et je voulais arrêter de faire du secrétariat. Et comme j'aimais bien les livres, je me suis dit, je vais me lancer, je vais essayer de rechercher, au début en tout cas, un emploi un peu... d'une manière générale dans les livres. Donc j'ai envoyé des offres à des librairies et à des bibliothèques. Et en fait, j'ai hésité quand j'ai vu Bibliothèque Braille et je me suis dit, peut-être qu'ils ne me demanderont pas de savoir le braille puisque de toute façon, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et puis j'ai fait une offre spontanée. Et puis, par chance, voilà, j'ai reçu une réponse et on m'a dit, est-ce que vous aimez bien lire? Est-ce que vous savez bien le français? Ça allait, c'était dans mes cordes. Il fallait savoir un peu d'informatique, mais pas trop, donc c'était vraiment dans mes cordes. Et puis voilà, et puis j'ai eu la chance de pouvoir commencer. Voilà. Essentiellement parce que j'aimais lire et que je voulais travailler dans le domaine des livres. Voilà.
Et toi, Séverine?
Alors moi, j'ai reçu un téléphone d'une amie qui était étudiante en lettres et qui travaillait à la bibliothèque. et qui m'a dit, écoute, moi j'ai fait le tour, j'aimerais changer de travail et j'ai pensé à toi. Alors moi j'ai dit, bah, si, ça a l'air pas mal tout ça, et donc je me suis présentée, j'ai passé un test, je l'ai réussi, et ensuite, bon, donc j'ai commencé comme étudiante, payée à l'heure, et j'ai une collègue après une année qui est partie à la retraite, et vu que j'avais déjà une année d'expérience, j'ai demandé si je pouvais reprendre son poste, et voilà comment je suis devenue de fil en aiguille. Transcriptrice à 50%.
Voilà, il y a plus de 20 ans.
Plus de 20 ans, voilà, exact.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ?
Alors moi, j'aime bien le côté concret et utile de faire quelque chose qu'une autre personne ne pourrait pas avoir par un autre biais. J'aime bien... en même temps, j'aime bien faire des choses un peu... des demandes spécifiques qui sortent un petit peu de notre travail classique, parce que c'est un petit travail de recherche en amont. On communique avec la personne, on essaye de voir quels sont ses besoins, dans quel but, et on doit tout le long de l'adaptation ensuite garder le cap, rester, parce qu'on est quand même toute voyante à la bibliothèque, à la transcription, et on doit garder le cap de ces besoins particuliers-là. On sort un petit peu de nous-mêmes, si on veut bien. Et puis, chaque demande particulière, eh ben, en même temps, je suis utile. Et en même temps, la personne qui nous le demande, la chose, nous est utile parce qu'on se forme et on s'améliore à chaque spécificité. Et ce que j'aime bien aussi, ce qui me tient à cœur, c'est que depuis quelque temps, on a pas mal optimisé la production des livres braille et papier
pour la collection.
Et on arrive lorsqu'on imprime en braille un titre, on arrive à quelques semaines de sa sortie dans le commerce, et ça, je trouve plutôt sympa
d'avoir vraiment accéléré le processus.
Je trouve que c'est un petit confort sympa qu'on peut offrir à nos abonnés.
Une belle satisfaction.
Ouais.
Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu aimes dans le métier de transcriptrice ?
Alors, juste avant de le dire, je reprends ce que dit Séverine. Je trouve que oui, c'est très important parce que par la nature même du travail qu'on fait ou qu'on faisait avant, le temps que ça prenait faisait qu'il y avait un écart assez important parfois entre la sortie d'un livre que les gens attendaient, du commerce, dont on avait entendu parler, et qu'ils avaient très envie de lire, alors que maintenant, il y a beaucoup moins d'écart. C'est vrai qu'en plus, on a travaillé quand même pendant longtemps avec des bénévoles. Donc c'est vrai que ces bénévoles, c'était merveilleux de pouvoir avoir leur service. Mais on ne pouvait pas non plus exiger d'eux, forcément, qu'ils aient le temps ou qu'ils prennent le temps à peu près tous les jours, d'une manière trop accélérée non plus, de faire tel ou tel ouvrage. Donc les professionnels, on s'en chargeait, mais c'était quand même plus long le délai, en gros, globalement. Et maintenant, on arrive pratiquement à se dire qu'on va pouvoir sortir un livre dont on vient de parler dans les médias, assez vite, mais qu'il soit disponible assez vite. Alors moi, je dois dire qu'au début, ce que j'aimais, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de lecture, c'était les livres, c'était le contact avec les livres. Donc on lisait, on corrigeait. Et après, on a eu au fil des années beaucoup moins le besoin de lire en entier des livres. Finalement, on les prend, on les traite, on survole un peu pour voir leur structure générale et s'il y a des fautes ou pas. Mais ça, il y a des moyens informatiques qui nous permettent de le faire rapidement quand même. Et alors maintenant, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand même l'adaptation, c'est-à-dire que les moments où, dans un ouvrage, surtout évidemment un peu plus pour les ouvrages scolaires, par exemple, on doit adapter, on a des schémas, des graphiques, comment on va représenter un graphique. Alors évidemment, pour un enfant ou une personne d'ailleurs, qui lira que en braille, donc imprimé braille, c'est encore plus dur, donc il faut vraiment adapter parce qu'il ne pourrait pas y avoir de schéma, etc. Mais même finalement, en braille numérique, faut se dire que ce texte-là, la personne qui va l'utiliser, elle n'aura pas de graphique, elle ne pourra pas voir un graphique, elle ne pourra pas forcément sauter avec sa souris d'un endroit à l'autre. Et donc, on devra adapter, on devra faire des commentaires, des commentaires de photos, des commentaires de dessins, et se poser la question, un peu comme disait Séverine, se poser la question de se dire, qu'est-ce qui va être le plus utile pour la personne ? Si c'est un enfant petit, on va expliquer un peu différemment que si c'est un enfant plus grand, où il y a des notions qu'il connaît déjà, ou si c'est une personne de l'extérieur qui aura peut-être besoin de pas beaucoup d'autres commentaires. Voilà. Donc, c'est vrai que du coup, on a... les besoins sont spécifiques, et du coup, ça, c'est intéressant aussi. Voilà.
Et tu parlais des bénévoles tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de le préciser qu'on a eu pendant de nombreuses années une grande équipe de bénévoles. Ils ont été jusqu'à une bonne douzaine, voire même quinzaine. Et on a donc réduit cette équipe désormais à 4-5 personnes seulement, mais qui nous sont toujours très utiles. Et c'est vrai que quand on tombe sur des ouvrages qui sont un petit peu plus complexes pour que les transcriptrices aient le temps de se consacrer à autre chose, on sollicite nos derniers bénévoles pour nous aider à continuer d'adapter les livres, à continuer de fournir toujours une bonne quantité d'ouvrages pour la collection. Et c'est vrai que je voudrais profiter de ce podcast pour les remercier, parce que ils font vraiment partie aussi de l'équipe de la transcription, et grâce à eux, c'est grâce à eux aussi qu'on produit des ouvrages pour la collection. Est-ce que vous auriez éventuellement une anecdote de transcriptrice à nous raconter ?
J'en ai peut-être une ou deux, mais il y en a une qui me frappe, donc j'aime bien me remémorer. C'est quand j'ai commencé, comme on l'a dit, on n'avait pas encore de livres à télécharger. On n'avait pas encore de plateforme, dans le fond, où on peut trouver des ouvrages. Les éditeurs ne fonctionnaient pas du tout comme ça. Donc, dans le fond, on leur demandait des livres et on les scannait. Et c'est vrai que le premier scanner auquel j'ai eu affaire, c'était vraiment un appareil... antique, c'est-à-dire que on devait, alors non seulement c'est beaucoup plus lent que les scanners actuels, évidemment, il fonctionnait page par page, donc il fallait mettre une page, attendre un petit peu, ensuite la retourner, et je me souviens surtout l'anecdote, c'est que le premier qu'on a eu, quand on retournait pas la page à temps, il fallait recommencer. Donc je sais que à l'époque, la personne avec qui j'avais commencé m'avait dit « Attention, tu retournes au bon moment. Si tu ne retournes pas la page au bon moment, il va falloir recommencer. Ah, » Et c'est vrai. Alors, pas tout le livre, mais disons que ça interrompait pas mal. Donc à la fois, c'était lent et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire en attendant. »
Alors moi, j'ai une anecdote qui concerne plutôt le braille, mais pas la transcription. J'ai en fait la chance de faire des animations dans les écoles avec Tiane, ma collègue. On est aussi épaulé par Manuela, mon autre collègue. On va dans les cycles, les écoles primaires, les collèges, sensibiliser les classes au braille, à l'écriture braille. Et un jour, on a été dans un cycle et un jeune garçon vient vers nous et puis nous dit « Ah, je vous remercie beaucoup parce que j'avais suivi un atelier que vous aviez fait en primaire dans ma classe. » Et après cet atelier, j'ai pu, je connaissais donc un peu l'alphabet braille, j'ai pu écrire à ma tante aveugle, j'ai pu lui écrire une lettre juste avant qu'elle meure, elle était toute contente et je vous remercie beaucoup. Et ben voilà, je trouvais que ça me démontrait bien que le braille reste un formidable moyen de communication, voilà, tout simplement.
Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation, le partage de votre expérience. Et peut-être donner les coordonnées, informer nos auditeurs si quelqu'un a une question, a une demande à formuler pour un document à adapter. Il peut s'adresser à la bibliothèque, soit en écrivant par mail à l'adresse bbr@abage.ch. soit en nous appelant au numéro général de la bibliothèque au 022 317 79 00. Merci à vous, Pascal et Séverine.
Merci.
Merci.
Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.
La BBR, des livres à haute voix, et des livres au bout des doigts.